Pause gourmande. Prenez de la culture, ajoutez une pincée de tradition, un soupçon de coutume, quelques grammes de bien-être, saupoudrez de quelques notes de musique, le tout assaisonné avec des invités de marque et servi dans une ambiance de bonne humeur et de partage. Pause gourmande, tous les dimanches, lundis, mardis et mercredis, de 16h à 17h avec Soraya Bouatba et Souad Medja sur Algie chaîne 3.
À l'écoute des programmes d'Alger Chaîne 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir, les amis, de vous retrouver comme tous les dimanches, lundi, mardi et mercredi sur Alger Chaîne 3 pour Pause Gourmande. La dernière aujourd'hui. Oh là là, on arrive déjà, les amis, à la fin. 28e jour, incroyable. C'est passé tellement vite, mais on l'a passé tellement bien en votre compagnie. Pause Gourmande, les amis. Une émission réalisée par notre maestro Souad Medja, qu'on salue. Il est là avec nous, Samir, un plaisir de vous retrouver. C'est notre ingénieur du son. Il est derrière la barre technique. Il est là aussi, notre ami Hussein, à la régie d'antenne. Et Yassine, au streaming. Et elles sont là, il est là, et c'est très très important de l'avoir avec nous. Les amis, elles sont là, elles ont troqué leurs ustensiles de cuisine dans cette période de l'halwa pour justement prendre les casques, les bécanes et investir les feux et les ruelles d'Algérie. Yasmine, bonjour.
Bonjour Soraya.
Bonjour. Ça va Yasmine?
Bien, et toi?
Ça se passe bien?
Très très bien.
Alhamdoulilah, un plaisir. Yasmine, c'est une habituée, elle a l'habitude de venir.
Oui, c'est ça toujours va, un plaisir d'être là parmi
nous. Tout le plaisir est pour nous. Elle est là, elle est avec nous aussi. Nadia.
Bonjour Soraya.
Ça va, ça se passe bien?
Très bien, alhamdoulilah.
Et toi? Eh bien, cool. Kahina aussi, c'est une première, elle a tellement... Elle avait tellement hésité à venir, à vrai dire, Tachem Kahina, bonjour.
Bonjour.
C'est la Ladies of Harley, les amis. C'est le groupe du Hog, c'est le Ladies of Harley. Un plaisir de vous avoir avec nous. On va revenir, on va parler justement de cette passion et de tout ce que vous avez justement l'habitude de faire, notamment le jour de l'Aïd pour notre opération Un enfant, un jouet, un sourire. Le docteur Loussif.
Et bonjour.
Oh là là, on ne pouvait pas passer justement en Pause Gourmande sans... Le docteur Lossé, vous avez toujours été avec nous depuis 2009.
C'est vrai.
Ça se passe bien.
Ça se passe très très bien, merci Soraya.
Aujourd'hui, justement, on va revenir un petit peu sur cette importance de faire cette transition, d'une façon sympathique pour ne pas heurter la sensibilité de notre organisme.
Tout à fait, oui.
Et on a le droit de manger quelques gâteaux.
Mais bien sûr.
J'adore le
droit.
C'est très bien. Voilà. Dans
la tolérance
totale. Nous demande de manger. C'est très, très important.
C'est important.
Mélium Bendel Ibrahim.
Bonjour Soraya.
Ça va, ça se passe bien.
Ça va très bien, alhamdoulilah. Comme à chaque fois.
Rayonnante.
Merci, bah toi aussi. Comme les ladies.
Ça doit être le rose.
Tout à fait.
Les amis, on va écouter une belle petite chanson et on revient juste après.
أنا الكاوي بكي مخفي كيف ذات نبرالي أيلي ومالي بعد لنكويت وبكيت جراحي طالو يحيا وحتى يهولوني ونعود نسهر الليالي أيلي ومالي جراح الحب والهوى والهجرة لازالوا لجراحي هيجو غرام الغيوان الشاطنات بالي أيلي ومالي جراحي هيج ياك زادو للقلب هوالو بهم مشطون كيف رادو قدر نعمل غني العالي أيلي ومالي السابق اللي نصرفو الوعد بمجالو لازلت من لازم الصبر صبري صبر لعيس في الليالي أيلي ومالي رفت حمول الهوى وتقدرت بحماله عبروني يا أهلي ولاش لوموني هكذا في حالي أيلي ومالي سيروا خلي وكل حالي سير على حاله شلوموني هكذا بحالي وانا بجرايحي داني شاكي باكي من هموم قلبي وهوانو ترامون الغرام جايا ترى حالو يعود سالي ترى يبقى هميم هايم لما يحلالو لو غرام مطوع سلاطن لا سيما اللي بحالي دماغي ضن على العاشق ما كيحللو طوع كسرى على نصالو يا ما قسم على هلالي الهلالي الهلالي ومطوع سيف والغلام ولعب سيف ومثالو اعذروني يا اهلي ولا شلوموني هكذا حالي بحالي بحالي سيروا خلي وكل حالي سير على حاله سيروا خلي وكل حالي سير على حاله يا اهلي ولا شلوموني هكذا حالي اعذروني يا اهلي ولا شلوموني هكذا بحالي يسير على حاله سير وخلي وكل حال يسير على حاله
Un plaisir de l'écouter. Mohamed Reda Djander, qui a repris justement les anciens textes de la musique algérienne. Il en a fait quand même quelques pépites qu'on écoute avec plaisir. Il a attiré un maximum de jeunes. C'est le but aussi pour perpétuer justement cette tradition et la tradition d'écouter notre musique, la musique algérienne.
Pause gourmande.
Un plaisir les amis de vous retrouver pour cette dernière émission. Elle va me manquer cette émission, elle va me manquer. C'est l'ambiance aussi qui va manquer un petit peu de retrouver toute cette effervescence avec nos invités, avec l'équipe derrière la vitre. Un plaisir les amis d'être en votre compagnie, un plaisir de les recevoir. Ladies of Harley, quel bonheur!
Merci Soraya.
Ça va les filles?
Très bien.
Très, très bien.
Alors, on va commencer par le commencement.
Oui.
Qu'est-ce que le Ladies of Harley?
Alors, les Ladies of Harley, c'est des motards avant tout. Donc, on fait partie du club, du chapter, qui existe depuis 2013. Tout à fait. Et voilà, donc les femmes, pour la plupart des ladies, accompagnent leurs époux pendant les sorties.
Mais c'est des aujourd'hui, membres associés.
Tout à fait. Mm-hmm. C'est des membres associés. Tu as bien fait de relever. Donc, on distingue deux catégories. Donc, on a les membres associés et les membres titulaires. Mm-hmm. C'est-à-dire les
ladies qui conduisent.
Voilà, les ladies qui conduisent. Et donc, aujourd'hui, on en compte deux, notamment Nadia qui vient tout juste de nous rejoindre depuis quelques mois et qui fait partie aujourd'hui intégralement des Ladies of Harley et moi-même. Et demain, Inch'Allah, on en aura, on assure, on va.
Trois sur
on
le va reste,
voilà, donc c'est
elles
ça.
Elles arrivent.
Inch'Allah, exactement. On les attend. Inch'Allah. Et donc, la participation des Ladies of Harley, En général, elle est très importante dans le club, que ça soit dans les sorties ou alors dans les événements qu'on organise tout au long de l'année, parce que le club, c'est pas juste rouler et aller de ville en ville et faire sortir les motos, c'est aussi toute une organisation qui est derrière. Donc on a le groupe, comme on le sait, est constitué du staff. Donc on a le président et on lui passe un bonjour et
c'est
on lui souhaite.
Il est super malade, il aurait.
Voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. On a le vice-président, voilà, Kahina, la responsable des Ladies of Harley. On a un trésorier, on a une secrétaire, on a. Enfin, les postes sont hiérarchisés de façon à ce qu'on fasse. Tout ça, tous ensemble, qu'on s'organise avec les membres aussi qui sont activement appelés à participer à toutes les activités. Et les ladies aussi font partie, font un grand travail, on va dire, au sein du chapter.
Elles sont là, il y a cette diversité,
oui,
c'est ouvert à tout
oui.
le monde.
Oui, cette année, on a eu, d'ailleurs, on a organisé, dont on est très très fiers, n'est-ce pas, Karine? Voilà, donc c'était une initiative qu'on a prise avec aussi ton aide. Aujourd'hui, tu fais partie aussi de la famille des ladies et du chapter. Donc là, tu nous as rejoints, même si tu as toujours été là parmi nous tous. Et cette année, on a pris l'initiative d'organiser le
Octobre
Rose, qui a été un succès pour moi, pour nous toutes,
c'était
pour une
original,
première.
C'était original, le fait de voir justement ces femmes motards qui étaient là, qui ont montré justement à toutes ces femmes
Exactement.
Qu'on était capable de faire certaines choses.
Exactement.
C'est parce qu'on est une femme,
et
qu'on
c'était
est
pour
obligée
la cause
de rester dans
aussi.
L'ombre. Tout à
et
fait.
C'était pour la cause. Donc, on avait aussi parmi nous des médecins. On avait des associations, donc on s'est organisé à Sidi Fredj, donc le lieu était Sidi Fredj, on a mis tout en place pour recevoir aussi pour la prévention et pousser les femmes aussi à faire le dépistage et informer surtout.
Et le plus important, c'était de descendre sur un lieu public.
Tout à fait.
Qui draine énormément de monde. Donc le fait de voir tout ce beau monde.
Et on a fait des activités.
Pour joindre l'utile à l'agréable.
Exactement. Et on a fait des activités pendant l'événement. Donc il y avait du bien-être, il y avait du sport, il y avait du yoga, il y avait de l'information aussi, il y avait des gâteaux, on a mangé.
Mais c'est bien.
Il y avait des gâteaux. Donc
justement,
il y avait
nos organisations sont basées généralement sur les
Mais c'est bien de manger.
Voilà, se retrouver
au basé sur la nourriture. Même quand on se rencontre,
n'est-ce pas?
Donc il faut toujours qu'il y ait cette
Mais bien sûr.
Cette rencontre sûr, autour de quelque chose qui fait du bien,
n'est-ce pas?
Toujours.
Voilà, donc principalement le rôle des ladies, c'est ça, c'est de tout au long de l'année, c'est d'accompagner le chapter dans les activités, et on a toujours nous on met en avant le côté famille.
Exactement.
Voilà, donc ça c'est notre rôle aussi. On est là pour rassembler, on est là pour les activités, mais pas que.
Et donc, ça adoucit aussi le club. Et le groupe, ça c'est très très important.
Oui.
Ça adoucit, parce que quand on voit que des hommes et tout, on se dit, ouais, c'est des bikers et tout. Mais quand il y a des ladies aussi,
Exactement.
Ça fait joli.
Ça fait...
Et ça donne envie aux autres de s'intégrer.
Absolument.
Nadia, l'histoire de Nadia et la moto, comment vous avez eu l'idée justement?
Ben, moi, mon histoire avec la moto remonte quand même à quelques années. J'avais entendu une phrase, enfin un monsieur, un vieux motard qui disait « Binti, kinsma rinna ta'al motour, kalbi bda yirjif ». Et quelques minutes après, j'entends le bruit d'une moto et j'ai eu le même...
c'était ça.
Quelques semaines après, j'avais mon permis. J'avais
direct.
Mon permis. Ah oui, direct.
D'ailleurs, avec
fallait...
on s'est rencontrés...
Grâce à nos cours,
tout à fait.
On s'était connus en 2021. En fait, on avait commencé pratiquement notre parcours moto
ensemble.
Oui. Voilà.
Même période.
On avait acheté nos motos ensemble.
Toi, t'avais ton permis, mais pas moi.
C'est ça.
Oui, moi,
c'est
j'avais
ça.
Commencé déjà par l'apprentissage. Ensuite, j'ai passé mon permis pour pouvoir sortir. Justement.
Mais c'est encore Nadia direct.
Ouais.
Je vous ai permis. Je le garde. Mais il y a que le maître, comme dirait ma grand-mère. Et après?
Et après, bon, j'ai roulé quand même quelques années en solitaire, pratiquement, parce que moi,
Vous avez appris
Yasmine,
Vous avez appris entre-temps.
Oui, oui. J'avais eu un bon coach, Samir Khemissi d'ailleurs, que je salue, voilà. Et entre-temps, Yasmine avait rejoint la famille du chapter, donc on n'avait pas trop l'occasion de rouler ensemble. Et quelques années après, j'ai eu cette chance et cette joie aussi de faire partie aussi de cette famille.
Bah justement, vous avez une grosse moto, Nadia. Ouais. Comment on arrive à gérer une grosse moto?
C'est très physique. C'est pas évident.
Faut bien manger.
Mais
Faut bien manger. Comme dirait Yasmine. C'est vrai qu'elle est immense.
Il faut faire du sport. Il faut être quand même assez
sportif. Il faut
faire
du muscle.
Il faut être bien musclé. Mais après, quand le plaisir...
Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, on a toujours cette idée reçue de la moto. Il faut s'entretenir, il faut faire du sport, il faut une bonne hygiène de vie. Ça reste un sport, hein. c'est un sport mécanique. Mais avant tout, c'est physique. C'est de la physique, la moto.
C'est vrai.
Oui, on va là où on regarde.
Il paraît qu'il y a un test qu'on fait la première fois. Je comprends la moto et on essaie de la tenir avec un seul doigt. Si on arrive à tenir l'équilibre, c'est que c'est bon.
Oui, et puis si on veut risquer aussi avec sa moto, c'est qu'elle tombe, et que ça coûte cher, que ça casse des pièces.
Non, je peux tenir avec les deux bras. Non, ça va aller, l'équilibre. C'est vrai que c'est des motos qui coûtent relativement cher. Hein. C'est une moto qui coûte relativement cher, mais ça reste quand même...
Oui, c'est une passion. C'est une passion qu'on ne décrit pas, qu'on n'arrive pas à expliquer. En fait, la moto se vit comme on le dit et que c'est connu. Mais c'est réellement ça. La moto se vit et que ça soit pour un homme ou pour une femme, il y a de la place pour tout le monde. Et un motard qu'il fasse partie d'un club ou qu'il soit un motard solitaire, comme disait tout à l'heure Nadia, on en connaît beaucoup, surtout des femmes motardes qui roulent seules. Et qui ne font pas partie forcément d'un club, mais qui se respectent, qui roulent le plus normalement du monde, comme
justement cette liberté, les amis.
Pause gourmande.
Les filles, un plaisir de vous avoir avec nous pour la dernière émission de Pause Gourmande. Ces dames qui ont décidé de jeter leur louche aujourd'hui pour venir nous en parler, venir partager justement avec nous leur passion. Mais pas que. Mesdames, vous militez aussi pour la sécurité routière.
Oui, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, hors antenne, pour le chapter, pour le club, on participe à ça activement pendant toute l'année et à travers des exercices de conduite, un recyclage. Donc nous, on s'organise de façon à ce qu'on fasse chaque mois du recyclage pour tous les membres, même si c'est des motards qui ont des kilomètres au compteur, mais c'est important de toujours revoir les bases, les fondamentaux.
Et coordonner aussi, parce que vous travaillez en groupe, tout vous sortez en groupe, il faut que vous fassiez ensemble.
On fait agrandir aussi l'équipe des road captains. Donc aujourd'hui,
qu'est-ce qu'un road captain? Voilà, c'est bien de s'arrêter.
Aujourd'hui,
vous êtes road captain,
Yasmine. On en compte 7 aujourd'hui.
Fraîchement élu.
Donc je vais être très brève à ce sujet. De peur à ce que je me fasse taper sur les doigts. Donc un road captain, on va dire que
C'est un capitaine de route.
C'est un capitaine de route qui est là pour encadrer tout le groupe sur route. Ça, c'est important parce qu'on a tendance, quand on fait beaucoup de kilomètres, on a tendance à s'oublier, à fatiguer. Donc, il est là, il est vigilant, il fait des...
Il y a ses garde-fous.
La compagne. Tout à fait. Et c'est aussi un membre du groupe qui est, on va dire, qui maîtrise... on va dire
de la conduite.
Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est important d'avoir les capitaines de route et nous on est très très regardant là-dessus et sur la formation surtout. Donc on a Amé Mohamed qui est head road captain et Abdel Rani Michti qui est le président du club et qui est aussi head road captain qui nous font des formations en continu. Aujourd'hui, on est 4 à avoir intégré la petite team de la road team, voilà. On appelle ça comme ça, la road team. Et on est en cours de formation et on a aussi d'autres road captains qui sont plus formés et plus qui nous encadrent aussi. Donc tout ça, ça rentre dans la sécurité routière. Rouler en groupe.
Donc vous êtes 9 road captains en ce moment.
En ce moment.
Donc vous essayez un petit peu de gérer ce chapter, les amis.
Tous
vous avez
ensemble.
Vu qu'en ce moment on roule ensemble en groupe et quand on est sur la route, on est obligé de protéger sa personne, de protéger le groupe et faire attention aussi aux automobilistes. Il ne faut pas oublier que lorsque vous roulez, vous n'êtes pas seul sur la route.
On est des
D'où
usagers.
L'importance justement d'avoir ces road captains qui sont ils sont injectés un petit peu partout sur le long du chapter et ça vous permet aussi de coordonner pour
Exactement.
Voir un petit peu où en est la situation. S'il y a des dépassements, vous êtes là.
Tout à fait.
Vous pouvez même taper sur les doigts de ceux qui font des
bêtises.
Oui,
on fait
des
briefings,
bien
sûr.
C'est très important, vous êtes très pointilleux sur ça.
On commence toujours par le briefing, et puis s'il y a un problème, on le signale, et qu'on puisse aussi continuer à rouler à destination en toute sécurité, et que tout le monde arrive sain et sauf. C'est ce qui est primordial avant tout. Et bien sûr, prendre du plaisir. C'est pas juste encadrer, être là, vigilant, tout ça. On prend beaucoup de plaisir à rouler, on s'amuse, donc c'est un tout, c'est toute une discipline.
Vous avez roulé seule, Nadia, et aujourd'hui vous êtes avec un groupe.
Ouais.
Il y a une différence ?
Une sacrée différence, ouais. C'est vrai qu'au début, j'ai souvent cavalé en solitaire, mais c'est pas évident parce que on n'est pas à l'abri d'une panne, on n'est pas à l'abri d'un accident, on se sent pas en sécurité. Et le fait de rouler en groupe et pas n'importe lequel, c'est autre chose. Déjà le chapter, c'est une école. Il vous accompagne, il vous forme, il vous aide à vous améliorer. Et c'est beaucoup de plaisir aussi de partager la route avec ses camarades.
Kérina, vous êtes fière de vos ladies?
Oui, très
fière. Ah ben, c'est très bien, les amis. 16h30 à l'écoute du programme d'LG Chant 3, les amis. On est en plein mois de Ramadan. Il reste quelques heures pour aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc, il nous reste à peu près 2 jours. Les filles, est-ce que vous avez fait attention pendant ce Ramadan? Sérieux, vous avez mangé?
Non.
Non. Vous n'avez pas fait attention.
Non.
Vous avez laissé libre cours à vos
enfants. Les débuts, oui. Les débuts, oui. Après, il faut avoir du temps aussi pour cuisiner.
Fait,
et puis, on prend ce
Mais
qu'il
sinon,
y a.
Ramadan, on se laisse aller de temps en temps. C'est bien. On mange des briques.
Exactement.
Kérina, il paraît, elle a mangé 29 briques. Ah, non, pas 29. 26. Depuis quelques temps, ça y est, on a arrêté avec les briques. 19. 19 briques, voilà. Et pour Nadia?
Moi, ça va. Ça va. J'arrive à gérer.
À gérer.
Je suis gourmande, mais j'essaie de faire attention.
Mais vous restez gourmande quand même,
ouais.
En faisant attention. Eh bien, lui, il est d'accord avec nous. C'est ça. Il n'a pas les frustrations. Docteur Lossif, je rappelle à nos amis auditeurs que vous êtes médecin du sport et médecin nutritionniste. Vous êtes médecin nutritionniste, les amis. Il est médecin.
Ouais.
Il n'est pas coach.
Non. Ibi, vous avez raison de vous faire plaisir pendant tout le mois du Ramadan. Et je pense que c'est un mois sacré, c'est un mois où on se fait plaisir aussi, au sens large du terme. Après, il faut savoir où s'arrêter.
Les limites.
Voilà, vous l'avez su. Ouais. C'est très bien.
D'où justement le 19e jour.
À
la 19e brique.
Franchement, je pense que le pire ennemi d'un déséquilibrage alimentaire, ça reste le sucre.
Ouais.
Je le crie haut et fort, le sucre reste quand même l'ennemi du corps humain. Après, les briques, tout ce qui est salé, ça va. On peut en prendre assez régulièrement. Pas trop d'huile, pas trop de gras, c'est surtout ça. Mais après, c'est le sucré qui fait défaut. Si on prend du poids pendant le mois du Ramadan, c'est parce que on a abusé. Du point de vue sucrerie, voilà. Donc
Khalbelouz. C'est vrai qu'aujourd'hui, les pâtisseries ont fleuri un petit peu.
Et puis
partout.
Les pâtisseries.
Mais ils font de l'excellent travail aussi. C'est très bon.
Oui,
parfois.
Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé aussi d'en prendre tous les. Donc consommer, c'est bien.
Consommer avec modération.
Consommer avec modération, ça c'est très important. Et je pense, on est tous différents. On n'est pas tous sur la même balance d'équilibre par rapport à cette alimentation. Il y a des gens qui mangent trois fois plus et qui ne prennent même pas un kilo. Il y a d'autres.
C'est une question de métabolisme.
Tout à fait. Donc après, se goinfrer, après manger d'une façon hyperphage, manger en quantité, ça c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'à un moment donné, le corps humain il va craquer.
Ben, j'imagine. Docteur Lossif, on arrive à la fin de Ramadan. Il va falloir faire cette transition, reprendre une vie, on va dire normale. Où on ne fait pas beaucoup d'excès. Comment doit se faire cette transition ?
Alors, en fait, le Ramadan, normalement, c'est un mois où on fait...
un mois de diète, normalement.
Voilà, on fait un petit peu de diète.
Malheureusement, non, le
logiquement, dans la logique des choses, c'est ça. Mais malheureusement, par coutume, par habitude, il y a d'autres phénomènes qui se sont greffés, entre autres le stress. Donc du coup, donc, on a tendance un petit peu à nous suralimenter plus qu'il en faut. Donc après, ce qui est fait est fait. Mais la force de ce corps humain, c'est que tout est récupérable. Donc tout est réversible. Et ça, c'est important. On peut commencer à partir d'aujourd'hui et c'est très bien. Au bout de 2 mois, 3 mois, il y aura une transformation exceptionnelle.
Super.
Donc déjà, pendant tout le mois du Ramadan, la balance entre l'abstinence et les excès alimentaires nocturnes,
surtout.
C'est surtout nocturne parce que d'habitude, on mange dans la journée. Le métabolisme, il fonctionne différemment entre la nuit et le jour. Voilà, la nuit, on bouge plus. N'oubliez pas que pendant tout un mois, en un laps de temps, on va dire 5 heures, 6 heures, 7 heures, on prend une quantité X d'aliments. Ce qui fait qu'on surcharge cet estomac en alimentation en laps de temps qui est très restreint. D'où le corps, il va l'absorber, donc il va le garder. Et si c'est tout le temps comme ça, donc automatiquement, on va prendre du poids.
Exactement. Il paraît que le cerveau va garder en tête cette abstinence pendant 12 heures. Et dès qu'on lui donne après, si on lui donne beaucoup, il va tout stocker. Il a peur pour demain.
Il veut
garder des forces.
Mais c'est ça. Mm-hmm. Mais c'est comme quelqu'un qui se perd dans le Sahara. Et au bout de 2 jours, 3 jours, son corps, il se met en mode...
En mode de défense.
Donc il est obligé, c'est ça. Donc nous, c'est ce qui se passe. Du coup, donc la nuit, souvent on mange beaucoup. Le lendemain, donc 12 heures de jeûne, ce qui fait que le métabolisme, il va être un peu plus bas. Ce qui fait, il va garder plus d'aliments, il va garder plus de toxines.
Tout à fait, il va stocker au lieu de brûler.
Il va stocker au lieu de brûler.
Et puis on se dépense pas aussi.
En plus, on va parler un petit peu. On se dépense pas parce que on est fatigué, parce que voilà, il y a plein de contraintes.
On dort très mal, donc la journée, on est fatigué.
C'est la triade gagnante d'ailleurs. Une alimentation équilibrée, un bon sommeil et un petit peu d'activité
physique.
De sport, ouais. Ben ça, la triade gagnante. Personne ne peut nous raconter quoi que ce soit. C'est ça. Quand on arrive à gérer ces trois éléments...
Son alimentation, son sommeil...
Son sommeil et
son activité physique.
C'est le top.
Mais sinon, qu'est-ce qu'on doit faire, justement,
alors,
à partir du premier jour de l'Aïd? On va ouvrir le bal avec Habiba Mkolot.
Non, après le troisième jour de l'Aïd,
ouvrir le bal avec Habiba Mkolot.
D'accord. Déjà, l'Aïd, je conseille à tout le monde de se faire plaisir pendant ces 2 jours de l'Aïd.
Ah, d'accord. Merci.
Pendant tout un mois.
C'est le médecin qui l'a dit.
Pendant 2 jours.
Khalik, 2 jours. Le troisième jour, il faut faire attention.
J'aime bien 2 jours seulement.
2 jours.
Le troisième jour, faites du sport.
Franchement, non, mais parce que tout un mois, ça a été un peu dur alimentairement.
Exactement, c'est un mois de disette, c'est pas évident.
Donc, pour 2 jours, bon, faites-vous plaisir parce qu'il y aura de la famille, les coutumes, les gâteaux.
Est-ce qu'on est obligé de manger chez toutes les personnes qu'on va voir?
Bon, après,
non.
Est-ce qu'il y a une limite à votre fou plaisir?
Est-ce qu'il y a une limite pour le plaisir?
Mais bien sûr. Il y a toujours une limite pour le plaisir.
Sinon, pas de frustration. Avec une petite limite.
Exactement. Si on va chez 10 personnes dans la journée, on va pas prendre 10 gâteaux quand même. Je pense que c'est. On va un peu dans l'excès. Je pense que à partir du troisième jour, c'est là où le travail va commencer.
Donc, si on doit résumer un petit peu la situation en ce qui concerne le premier jour de l'Aïd, messieurs, dames, vous avez justement l'autorisation,
oui,
faites-vous
oui,
plaisir,
je pense,
quelques
oui.
gâteaux. Oui. Vous n'êtes pas obligé de manger chez tout le monde. En revanche, on peut faire deux. On peut emporter avec nous ces gâteaux.
Oui,
pour les autres jours.
Autres
bah
jours,
oui.
Oui. Non, mais franchement, les deux premiers jours de l'Aïd, généralement, on est un peu dans le gaz. C'est-à-dire même du point de vue métabolique et tout. Donc, on mange pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il faut à peu près une petite semaine pour que
c'est
le
vrai.
Corps se réadapte,
son rythme normal.
Se réadapte
le
à
petit café au lait le matin, le premier jour de l'Aïd avec Habib Araïch, Allah,
oui,
franchement, c'est
après,
possible.
Mais après, vous serez bloqué à midi.
Ah bon?
Ah ben, bien sûr.
Qui va manger le couscous?
Et le soir aussi.
Ah, le soir, non. Le soir, si, on peut faire l'exception. Voilà. On peut faire l'exception.
Il faut à peu près une semaine pour que le corps se réadapte. Un petit peu à son métabolisme de base.
Et
à
alors,
partir de là,
à partir du troisième jour de l'Aïd,
en fait, il n'y a pas une alimentation spécifique pour chaque individu. Ça n'existe pas.
C'est vrai.
Moi, j'aime bien parler du rééquilibrage alimentaire. C'est se rééquilibrer. C'est comme tout dans la vie aussi. Quand
tout
on
est basé
équilibré,
sur l'équilibre.
Tout est une histoire d'équilibre dans ses dépenses. Dans sa façon de voir les choses. Il ne faut pas aller dans les excès.
C'est ça.
Donc,
tout
excès est péché, absolument. Donc, à partir de là, il faut rééquilibrer son alimentation. Il ne faut pas aller dans l'abus de certains aliments. C'est-à-dire qu'on peut prendre, par exemple, une boisson gazeuse. On peut prendre de temps en temps, ça ne fait pas de mal, franchement.
Deux doigts.
trois doigts.
Trois doigts.
Ça ne fait pas grossir et puis il n'y aura aucun impact sur ce corps. Mais quand on prend ces sodas-là tous les jours...
Et tout le temps,
là, mais tout abus est nocif pour la santé, que ce soit pour le coca, pour l'eau aussi. Si on prend excessivement d'eau, c'est pas bon aussi.
Ben oui.
Et pourtant, si on en prend excessivement, c'est voilà.
On peut faire des arrêts cardiaques,
malade.
On
devient malade.
Les privations ne sont pas bonnes aussi.
On va dans l'équilibre alimentaire. Après. Manger équilibré. Chacun voit ça à sa façon. C'est quoi? Moi, je ne peux pas m'imposer, comme on voit un petit peu dans les réseaux sociaux, chacun il impose un peu son petit déjeuner du matin, c'est le plus royal, l'autre il va te raconter le contraire de ce qu'il a dit le premier. Donc après, on se dit, qu'est-ce qu'on est en train
surtout
de faire?
Surtout depuis l'apparition des
réseaux
sociaux, réseaux c'est incroyable.
Sociaux,
on entend
gars,
tout.
Ben oui,
et son
ben
contraire
oui,
après.
Les œufs, c'est mauvais pour la santé. D'autres, ils te disent, c'est ça la base de l'alimentation.
Exactement, c'est excellent.
Après, c'est excellent. Le cholestérol, l'autre, il te dit oui, l'autre, il te dit non. Où va-t-on? Donc chacun est maître de son rééquilibrage alimentaire.
Il faut rester à l'écoute de son corps.
Il faut rester à l'écoute de son corps. Personne ne vient vous dicter, vous dire, voilà, il faut manger ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Après. C'est à vous de mettre, on va dire, un chemin de vie alimentaire. Là, par exemple, on va manger d'une façon raisonnable. Ça veut dire quoi, manger d'une façon raisonnable?
Un tiers.
Voilà.
Oui, un tiers pour l'eau, un tiers pour la nourriture, un tiers pour
absolument.
L'air. Il ne faut pas trop manger,
absolument.
Finalement.
Si, vraiment, il ne faut pas avoir des repas copieux trois fois par jour. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
C'est vrai, ça a été dicté par des êtres humains.
Mais bien sûr, ça n'a aucun sens.
Peut-être par quelqu'un qui adorait manger.
Absolument, ça a été dicté, il y a les lobbies, il y a ceci, cela. Donc je pense que ça va dans tous les sens. Après, on ne va pas imposer, par exemple, une population du sud avec une population du nord, une population de l'est à prendre le même petit déjeuner. C'est complètement...
Le mode est différent.
Le mode est différent, donc voilà. Donc à partir de là, chacun a sa façon de manger. Et le petit déjeuner est important. Il ne faut pas manger, par exemple, d'une façon assez copieuse le midi et le soir. Si on mange bien le midi, le soir on allège, et vice-versa. Donc, manger, c'est...
Finalement, quand on ne mange pas beaucoup la journée, on peut manger le soir.
Oui, bien sûr. Mais bien sûr, manger le
soir... Mais alors, quand je me dis, c'est
non.
important.
Mais bien manger le soir, ça veut dire quoi, bien manger le soir?
Des produits sains.
Des produits sains.
Pardon.
Il faut toujours aller dans des produits sains. Tout simplement.
Des légumes.
Des légumes, des
même
protéines.
Un bon petit plat bien mijoté, bien de chez nous, un régime méditerranéen qui est
sûr,
superbe.
C'est excellent. Des bonnes salades variées, des dolmas, des mtouins. Voilà, donc rester un peu dans cet équilibre. Après, il ne faut pas surcharger. Je pense que toute l'astuce est là. Mm-hmm. Il ne faut pas charger et surcharger ce corps qui a des limites. C'est le midi, on mange très bien. À 16 heures, on va prendre un café au lait avec des croissants. Et puis le soir, on va encore manger très bien. Ça, c'est pas bon.
Manger quand vous avez faim.
Et puis, il faut lui donner des pauses aussi à ce tube digestif.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Il a besoin de se remettre à 10 heures, à 16 heures. De ses émotions après chaque nourriture.
Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, on peut couper le midi, le 10 heures et le 16 heures, par exemple, avec des fruits, par exemple.
Une bonne petite pomme, une bonne orange, des fruits de saison.
Des cafés, des oléagineux, genre, je sais pas, du raisin sec, des choses comme ça. C'est bon, c'est aussi bon pour la santé.
Quelques noix,
des fruits secs.
Des fruits secs, c'est bon.
Oui, des noix de cajou.
On n'est pas obligé de prendre son café.
Pas forcément.
Café au lait n'a pas été.
Pas forcément. Si vraiment il faut se lâcher, moi je pense qu'il faut se lâcher le matin.
Il faut se lâcher le matin, manger.
Café,
une bonne tartine,
du thé, des œufs, du fromage, donc tout ça on peut le prendre le matin. Le matin on peut se lâcher, on peut se permettre, absolument. Le conseil sur le café au lait, le café au lait, ça ne fait pas grossir. Ça ne fait pas maigrir, mais ça bloque la perte de poids.
Finalement, il fait rien.
Et ça donne des ballonnements.
Mais ça bloque la perte de poids, c'est à cause de ça.
Au-delà, ça finalement n'a pas lieu d'être, finalement, à bannir. Le café ne fait pas maigrir, il ne fait pas grossir, mais il bloque.
Le café au lait.
Alors, on va l'éliminer.
Et puis, surtout, éviter, j'ai bien dit éviter, c'est pas interdire, c'est interdit d'interdire à quelqu'un.
Tout à fait.
C'est interdit d'interdire, c'est pour tout. Donc, il faut éviter tout ce qui est trop friture, trop de friture, tout ce qui est grignotage. Et surtout, moi, je conseille beaucoup à mes patients, c'est d'éviter de prendre beaucoup de sucreries. Les sucreries, c'est vraiment...
C'est addictif.
C'est
très difficile.
Hormis que ça soit addictif, c'est vraiment maladie.
Je vous ai toujours raconté l'histoire de ce rat à qui on a donné de l'héroïne et du sucre pendant 15 jours. Et on l'a mis... il était en diète pendant 15 autres jours. Oui. La cage d'IL, on lui a donné l'héroïne et le sucre, il est allé directement vers le sucre. Ça veut dire que c'est plus dangereux, docteur.
C'est très dangereux, non, le sucre, c'est très dangereux. Je pense que si vraiment il faut faire un travail sur soi-même, c'est par rapport au sucre. Maintenant, avant, on disait attention, le gras.
Et tout ce qui est stevia, tout ce qui est, on sait que l'aspartame, on est revenu un petit peu sur ça, mais tout ce qui est stevia.
Avant, on mettait en cause plutôt les produits gras. C'est faux. C'était un lobby.
Le gras est très bon pour la santé.
Le gras est très bon pour la santé. C'était des lobbies, des trucs comme ça.
Sans sexe, c'est bien.
Voilà. Donc après, à un moment donné, ils interdisaient le fromage, ils interdisaient ceci, cela. Or non, c'est un peu pour faire pousser un petit peu tout ce qui est sucre et tout. Et tout ce qui est
c'est vrai, dans les années 50, 60, on faisait justement des publicités pour pousser les gens à manger du sucre. Si vous voulez avoir des forces, si vous voulez rouler.
Ça fait pas longtemps, ça fait une dizaine d'années.
On a commencé à revenir.
On conseille aux gens de prendre beaucoup plus de produits gras que de produits sucrés. Maintenant, tout revient un petit peu sur...
Ça y est, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a cette ouverture où on a des informations. Il y a toujours quelqu'un qui va venir pour nous dire attention.
C'est ça, oui.
C'est vrai qu'on parle de certaines choses, mais ce n'est pas forcément vrai. Donc, si on doit un petit peu résumer la situation, on peut se permettre quelques gâteaux. On passe quand même une semaine à préparer des gâteaux pour ne pas les manger. C'est bien aussi de les manger.
Il n'y a pas...
Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai quand on est... le plus important, les amis, c'est d'aller le jour de l'Aïd. Trablo.
Ah oui,
on arrête un petit peu avec ces réseaux sociaux
et
les messages
groupés. Les SMS,
groupés,
des trucs comme ça.
Donc, c'est bien de faire le déplacement. Vous n'êtes pas obligé de manger les gâteaux dans chaque maison. Vous pouvez les prendre avec vous. Donc, formule à emporter. Pourquoi pas? Pour ne pas heurter les sensibilités. Alors, on nous propose des gâteaux. Il n'y a pas de souci. Je prends avec moi. Il m'a dit, promis, je vais la manger.
Il faut ramener avec ça aussi. Il reste plus de la tradition. Je pense qu'elle est en train de... de s'éteindre un peu.
J'espère que Mazel a la tradition. C'est très, très important. On n'est pas obligé de manger tous les gâteaux. Mais c'est bien aussi de perdurer certaines traditions.
Il n'y a pas que l'alimentation. Peut-être qu'on se focalise beaucoup plus sur l'alimentation. Il n'y a pas que.
Il va falloir bouger.
Il faut se réhydrater constamment. L'eau fait partie aussi intégrante d'une bonne santé. il faut aussi réguler son sommeil. Mm-hmm. Puisque maintenant, je vous ai dit, à peu près une quinzaine de jours, on sera un petit peu dans le gaz et puis après, mm-hmm. on reprend un peu nos mm-hmm. bonnes habitudes, le sommeil et l'activité physique.
Donc, on reprend notre sport le plus normalement possible.
Normal. Normal.
Même au bout du premier jour, on peut faire notre footing.
Même, peut-être pas footing. Bon. Mm-hmm. On va commencer par de la marche. Et d'accord. ceux qui ont l'habitude de mm-hmm. faire des footings, mm-hmm. qui font leur footing, il n'y a pas de souci. C'est pas interdit.
Donc, c'est pas interdit. On peut commencer. Tout dès le premier
bon.
Jour.
Tout est bon, oui.
Ah, bah, c'est super. Il est très bien. Oui, Anima ou là. Voilà, on me dit.
De Mokhorot et du sport après.
C'est très bien. Habiba Mokhorot. Habiba Mokhorot, Habiba Aïch et du sport après. C'est important. Donc, premier jour, deuxième jour, Habiba Mokhorot, Habiba Aïch. À partir du troisième jour, on va reprendre les habitudes. Ça m'a les habitudes. J'ai pas l'habitude d'aller courir, mais bon, je crois qu'il va falloir le faire. Merci beaucoup, docteur Lossif. Un plaisir de vous avoir avec nous. Les amis. Elle nous a préparé quelque chose de sympathique. Mariam.
Pause gourmande.
Alors, Mariam, quoi de neuf? On n'a plus de haflette.
Plus de haflette.
Restez chez vous. Si vous voulez sortir, prendre un café entre amis.
Faites vos gâteaux.
Si vous voulez des haflettes, il n'y en a plus.
Bah, c'est la journée de faire, de préparation de Mokhorot et de l'Alaïch. Bon. En réalité,
exactement. C'est la journée de Mokhorot et de l'Alaïch.
On va continuer notre balade comme on l'a fait pendant toute cette semaine, Soraya. Mm-hmm. Hier, on a parlé de gâteaux. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va aller à la découverte de l'art culinaire. Donc cuisine et plats traditionnels
spécial aid
mm-hmm. dans les différentes régions de l'Algérie. Je vais poser quelques questions à nos invités si tu
bien
veux bien.
Bien sûr, mesdames.
Alors, vous préparez mesdames. Quoi en général? On a l'habitude de dans notre culture de savoir que le premier plat du premier jour de l'aid est plutôt copieux, plutôt riche. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous préparez pour ce jour-là, pour ce midi.
Alors, tahina rishta, Nadia, couscous.
Plutôt couscous, oui.
Mm-hmm. Ouais.
Couscous aussi.
C'est un biot.
Mmh. Et ben, bah, c'est à l'unanimité dans toutes les régions de l'Algérie, où c'est plus entre rishta, chouchoura ou couscous dans toutes ces formes, sauf à l'exception de quelques villes qui, par exemple, certaines villes du centre continuent un petit peu d'une manière douce du mois de Ramadan, donc ils font shorba bourek le matin, une version légère avec un petit mtoum, une petite chtatha, vraiment de version légère, pas très grasse. Mmh. À Meliana, par exemple, on fait carrément chtatha patata. Pour
qu'est-ce
laisser
que c'est
ce, voilà,
bon.
Pour laisser le
bon,
corps.
Le
patata flio, pour laisser le corps se reposer de toute l'alimentation.
Excellent plat.
Assez riche du mois de Ramadan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, c'est très bien. Donc,
c'est validé. Même le couscous, hein.
Parce qu'on reste un peu dans les filons.
Même rishta, couscous, c'est tout. Ouais.
Donc finalement, couscous, rishta, ça reste des féculents aussi.
Très bien. C'est vrai qu'on a une manière de manger très saine, hein.
Mais bien sûr.
On a voulu un petit peu s'occidentaliser. On a commencé à faire intégrer les fromages et
les crèmes fraîches.
Non, mais franchement, on a une alimentation.
C'est même pas. C'est bien d'intégrer. C'est bien d'intégrer d'autres aliments, mais c'est l'excès qui tue. C'est quand on met beaucoup de fromage dans un gratin, ça devient plus un gratin, ça devient du fromage, quoi.
Exactement. Ça devient du gras.
Du gras.
Sans le temps.
Et donc, avant de commencer à parler du plat mis à l'honneur aujourd'hui, j'ai un petit quiz pour nos invités.
D'accord.
Pour voir à peu près, bien sûr, pour voir à peu près si elles ont révisé un petit peu, elles connaissent encore les plats anciens qui tendent un petit peu à disparaître. Mm-hmm. Certains ont des noms très particuliers d'ailleurs. Ouais. C'est ce qu'on va voir. Si je vous dis par exemple, qati ou jmatou. Est-ce que vous connaissez? L'idée, c'est de me donner la réponse, de savoir à peu près pourquoi il a été appelé comme ça.
Les ingrédients.
Ah non, pourquoi il a été appelé comme ça? Je ne saurais vous répondre, mais qadi ou jmatou, on le fait à la maison. Donc, je connaissais bled el djedj et du poulet.
Bravo.
En sauce blanche.
Bravo.
Et donc,
pourquoi il a été appelé comme ça? Je sais pas.
Le qadi ou jmatou, c'est un petit peu le qadi, c'est le poulet, c'est le qadi.
Oui,
c'est
bon, le concept est.
C'est le sujet, ça mis en image.
Et ça court, donc.
On a l'image, oui.
Ouais. C'est très très bon. Donc, c'est un poulet blanc qu'on prépare à base de pois chiches. Donc, c'est berkabeta. Après, on met le tout dans un plat qui va au four. Une force habibet ou la djedj et on laisse mijoter. Excellent, c'est très bon. Hyper protéiné, c'est bon aussi pour les régimes.
Excellent. La viande blanche, c'est bien aussi pour les régimes, justement. Oui. Deuxième plat, c'est crème paille de l'autre. Il est plus connu, celui-là. Ouais. Mm-hmm. Mais pourquoi on l'a appelé comme ça?
Je peux répondre.
Bien sûr.
Alors, c'est comment ça y est, donc, je pense qu'il y a une khalkhala à l'époque. Non, à vrai dire, c'est des boulettes de viande qu'on va cuire dans une sauce rouge. Après, on va prendre ces boulettes, on va les frire plusieurs fois, on va faire des panures et tout ça. Donc, on va avoir cette boule qui sera enroulée d'une pâte. On va remettre cette boule à l'intérieur de la sauce.
Ça va former des beignets, c'est ça?
Ça va exactement. C'est très bon, c'est très tendre et tout. Et le secret, comme c'est le khal.
C'est le khal.
Voilà.
Donc, ça.
Il est très khal. Voilà.
Donc, j'imagine que c'est les odeurs fortes du vinaigre qui font rappeler un.
Exactement.
Ascalade. Voilà. Un troisième pour la route. Le fichiche fihjar mou. Je sens que celui-là, tu l'aimes bien.
Je ne l'aimais pas avant parce qu'il avait une révélation. Alors, est-ce que vous connaissez le fichiche fihjar mou? C'est vrai. Alors, à l'époque, elle nous voulait me kiffer. C'était encore pire.
Qui donne pas envie d'ailleurs.
Exactement. C'est assez.
Non, c'est... Ouais, ça donne pas. Et à quoi ça ressemble, Soraya?
Ouais, on va répondre
d'abord. C'est plutôt. On le trouve surtout au centre. Entre Alger, c'est de la viande, Blida, Chachel, Meliana et tout. Meliana. Et c'est tout simplement brouette à base. Oui, oui. Donc, c'est une sauce blanche.
C'est un cigare.
Et donc, c'est des brouettes, c'est des duoles. On va les farcir et on va les mettre à l'intérieur de cette sauce. Donc, on a le fichiche, qui est le brouette farci. C'est le djaja. C'est le poulet. C'est le poulet. Tout tourne autour du poulet. Et donc, à l'époque, c'était le mkeffen parce que c'était ressemblé à un mkeffen. Mais ça ne donnait pas envie de le manger. On lui a changé d'appellation. C'est devenu le mfichiche.
Et bien, du coup, tu as la réponse à toutes les questions, hein, Soraya.
J'adore manger. C'est un secret polichinelle.
On va aller découvrir alors le plat du jour que j'ai choisi de présenter aujourd'hui. C'est un plat à l'unanimité qu'on retrouve dans toutes les régions de l'Algérie. Et c'est pas très loin. C'est le berkoukes. Donc on l'appelle berkoukes aïch ou le mhamsa.
Ou le
mardoud. Ça dépend des régions de l'Algérie. Est-ce que vous savez comment il a été inventé?
Non.
Franchement, non.
Dis-nous tout.
C'est un couscous raté. C'était pas un
presque ça. Ouais,
c'est un couscous raté. C'est vrai que quand on commence à rouler les couscous, il qu'il khirjou les berakes.
Alors, c'est presque ça. En fait, c'est une combinaison entre vos deux réponses. C'est très simple. Donc, dans les tendures, les femmes donc roulaient la semoule pour faire du couscous dans les différents calibres pour préparer, elles préparaient ça en grande quantité pour la saison. Et donc, plus la quantité grandissait, plus les chutes, donc ces petites billes qui ne passaient pas par le tamis ni qui pouvaient être façonnées en couscous, commençaient à devenir importantes. Donc, par mesure d'économie et de bonne gestion des ressources, elles en ont décidé d'en faire un nouveau plat qui s'appelle...
C'est du recyclage, finalement.
C'est du recyclage. Oui, c'est vraiment du recyclage. Et c'est pour éviter le gaspillage, finalement, de toute cette semoule qui était dédiée à être jetée. Oui. Donc, c'est un plat typiquement berbère. Le nom original, c'est tabrkoukst. Et donc, au lieu de jeter toute cette semoule, elles en ont fait un nouveau plat. Donc, comme les billes et le diamètre des billes de semoule étaient plus grandes, donc elles ne pouvaient pas le servir en sauce comme pour le couscous, elles en ont décidé d'en faire un ragoût. Donc le ragoût est fait palhar, avec des légumes, avec des légumineuses et de l'huile d'olive en kabylie, et il y a avec du lait, du lait caillé, donc le hamsa.
Il y a aussi celui qu'on prépare pour nefsa.
Oui, on va en parler, justement. On va en parler. Et donc, en fait, et c'est comme ça qu'est né le berkoukes. Donc, c'est le ragoût. C'est donc, fin. Ils ont mis une sauce un peu plus épaisse et l'ont trempé pour que justement, la semoule puisse cuire et être imbibée suffisamment. Par rapport au couscous.
C'est de la création.
C'est du génie de la femme algérienne. Tout se transforme. Oui.
Alors, on le retrouve souvent dans les festivités, dans les célébrations, mais pas que. Il a un côté très thérapeutique et je vais vous raconter une histoire justement que j'ai trouvé dernièrement. Donc oui, on le donne pour le nefsa avec les sept épices, avec de la viande de coq plutôt.
Bah oui.
Voilà, donc parce que ça régénère le sang et donc on aide la femme à se remettre de ses saignements après l'accouchement.
Et c'est pour avoir aussi une remontée de lait.
Tout à fait.
Pour qu'elle puisse justement nourrir cet enfant fraîchement arrivé.
Mais il a été il a été utilisé aussi avec du za'atar plus tard pour pallier aux épidémies enfantines. Et c'est là où on a connu le fameux ish, la lahlima.
Parce que elle a fait quelque chose d'exceptionnel. Les amis, vous savez qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est incroyable. Déjà. Un enfant, un jouet, un sourire, vous allez être avec nous les filles.
Ah oui, oui on y
tout le chapter. Les amis, vous avez toujours été là. Depuis 2013, depuis la création justement du groupe et depuis la création de l'émission.
C'est une action qui nous tient très à cœur. Donc on va tous être mobilisés, Inch'Allah, pour aller donner le sourire à ces enfants malades et être là, partager la journée d'Al-Aïd ma'hum, Inch'Allah.
Magnifique. Les amis, Saha'idkoum. Bon, j'aurai l'occasion de vous dire Saha'idkoum le premier jour de l'Aïd.
Pas nous.
Et franchement, les amis, on a passé un moment très très agréable. Restez qu'on vous aide. Gardez le sourire. Soyez avec nous le premier jour de l'Aïd sur les 69 wilayas. On compte sur vous, d'accord? Merci à toute l'équipe et merci à Souad Medja qui a toujours été là pour la préparation et la réalisation de l'émission. Au revoir. Saha siyamkoum ou saha aftarkoum et pensez aux autres.